Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Nous retrouverons les jours heureux, avait dit Emmanuel Macron. C'était le 13 avril 2020, autant dire il y a un siècle. Et depuis, au rêve promis, c'était largement substitué le cauchemar quotidien de l'épidémie. Mais cette fois-ci, il semble bien qu'on en sorte pour de bon. Et c'est le Premier ministre Jean Castex qui s'en est réjoui tout à l'heure.
Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
La vie normale, ce sera la vie sans masque en extérieur et sans couvre-feu des dimanches. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On peut dire que c'est le titre principal dans l'actualité de ce 16 juin.
Oui, on ira dans un instant voir les toutes premières réactions à Bordeaux. Réaction aussi de médecins, l'épidémiologiste Philippe Amouyel sera notre invité. Dans ce journal également, ce coup de théâtre dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillard, son mari et son beau-père sont ce soir en garde à vue. Et puis l'ex-compagnon de Delphine Douib est lui condamné à la perpétuité, une peine rarissime dans les affaires de féminicide.
Parmi les invités de ce numéro d'RTL Soir, Suzanne Lindon qui sera avec nous à 18h35. Elle sort un tout premier film qu'elle a écrit, réalisé, dans lequel elle tient le personnage principal. Ça s'appelle 16 printemps. La météo, bonsoir Peggy.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain ce sera un printemps orageux.
Exactement, je rappelle qu'il y a 28 départements de l'Ouest en vigilance orange orage. Le Rhône est en vigilance orange canicule. Demain matin, ça restera gris et humide sur la Bretagne, la Normandie et dans le Sud-Ouest. Ailleurs, il fera beau. Et reprise de l'activité orageuse dans l'après-midi par l'Aquitaine en remontant vers l'Île-de-France. De fortes pluies et de la grêle et ça restera toujours beau à l'est. Juste une petite averse orageuse possible en montagne et des températures très contrastées de 18 à Brest à 36 à Strasbourg, 24 à Bordeaux, 31 à Paris.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Et une fois n'est pas coutume, on commence donc avec la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Nous allons lever l'obligation générale du port du masque en extérieur.
Fini le masque en extérieur. Et deuxième bonne nouvelle, cette mesure annoncée tout à l'heure par Jean Castex à l'issue du Conseil des ministres entrera en vigueur dès demain. Une libération pour beaucoup d'entre nous, qui plus est avec la chaleur de ces derniers jours. Illustration dans l'hypercentre de Bordeaux où vous êtes rendu, Philippe Demaria.
Oui, et les panneaux qui délimitent ce périmètre interdit au visage découvert sont encore en place. Alors, quand j'annonce la nouvelle, l'incrédulité se lit d'abord dans les yeux des passants.
Mais c'est vrai.
C'est génial, c'est super bien, c'est inattendu.
Ah oui, bonne nouvelle, ouais. Parce qu'il fait chaud.
Et le port du masque devient compliqué depuis quelques jours dans les rues d'une ville où les températures sont très largement supérieures à 30 degrés.
On est en train de visiter pour quelques jours et avec le masque, c'est quand même pénible, quoi.
Alors, bonheur, soulagement, mais plusieurs habitants me font une réponse inattendue, comme Frédéric et Alban.
Moi, je le garde, en extérieur, parce que ça ne me gêne pas de le porter. Je rentre dans un magasin, je sors, je revente, donc je le garde.
Dans les zones assez denses, type rue Sainte-Catherine à Bordeaux, je pense que c'est quand même important de le garder, surtout que je viens d'avoir un petit bébé, donc je veux faire attention.
Et chez les plus jeunes, là, la fin du couvre-feu dimanche soulève ce que l'on peut appeler un bel enthousiasme.
Plus du tout de couvre-feu ? C'est pas vrai. Ah bah, autre bonne nouvelle ! Tout est dingue. Ouais, ça permet de rester plus longtemps au resto et boire de verre plus longtemps. Ça change l'été, ce nouvel été. Ça libère aussi.
On n'aurait jamais cru qu'on aurait tous ce type de réaction, mais c'est bien vrai. Fin du masque à
l'extérieur. La dame qui dit je vais le garder quand même, elle est étonnante.
Oui,
hein, quand même.
Oui. Mais après c'est un choix, pourquoi pas. Absolument. C'est très bien. Fin aussi donc, on l'a dit, du couvre-feu à partir donc de lundi. C'était le reportage de Philippe Demaria à Bordeaux pour RTL. Alors attention tout de même, ce masque Odile Pouget, on va devoir le garder dans certains cas, à l'intérieur hein, bien sûr, mais pas seulement.
Absolument, le Premier ministre a même donné quelques exemples précis, les marchés, les files d'attente, les tribunes dans les stade, liste non exhaustive. En fait, le gouvernement compte sur le bon sens de chacun. On remet son masque à chaque fois que l'on se regroupe, que l'on fréquente des lieux où il y a du monde, des endroits où le fait de garder ses distances est difficile à respecter. Aux arrêts de bus bondés, par exemple, ou dans des rues commerçantes très fréquentées. Des arrêtés préfectoraux seront publiés dès demain. Un petit mystère subsiste. On ne sait pas pour l'instant si les écoliers, collégiens et lycéens vont pouvoir tomber le masque en cours de récréation. Ce n'est pas pas encore tranché. Alors c'est vrai que la situation sanitaire s'est très nettement améliorée et plus rapidement que prévu. 3200 contaminations par jour en moyenne sur la dernière semaine. Jamais depuis août dernier, on a connu un niveau de circulation du virus aussi bas. Moins de 2000 patients hospitalisés en réanimation et une épidémie qui recule partout. 89 départements ont aujourd'hui un taux d'incidence inférieur à 50 cas positifs pour 100 000 habitants.
Et donc, on a eu plus de bonnes nouvelles en 5 minutes qu'en 6 mois. Là, merci Odile. Odile Pouget, spécialiste santé ici à RTL. Et nous sommes en ligne en direct avec Philippe Amouyel, le professeur Amouyel, épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille. Bonsoir et merci d'être avec nous, professeur Amouyel.
Bonsoir.
Alors, j'imagine que le citoyen que vous êtes est heureux comme nous tous, mais l'épidémiologiste, il en pense quoi ? Il est inquiet ou il est serein, Philippe Amouyel ?
Alors, il est serein et heureux, l'épidémiologiste également. Comme le disait Odile Pouget il y a quelques instants, on est dans une situation qu'on n'a pas connue depuis longtemps et qui survient dans un délai beaucoup plus rapide que ce qu'on espérait. On est tombé en moyenne à 40 cas pour 100 000 habitants de taux d'incidence hebdomadaire. Je vous rappelle que le seuil d'alerte est à 50, donc on est en dessous des seuils d'alerte. Et surtout, on est tombé à moins de 4 000 cas positifs par jour, hein, 3200, entre 3500 et 3100. Pourquoi c'est important ? Parce que dans ces conditions, on peut faire une stratégie de tester, tracer et isoler qui est efficace et qui permet de contenir le variant et les évolutions épidémiques qu'on va avoir. Et on peut aussi faire ce que font les pays qui ont ces stratégies zéro Covid, c'est-à-dire du rétrotraçage. C'est-à-dire que quand on vous trace, on vous demande qui vous avez contacté. Quand on vous rétrotrace, on vous demande mais qui avez-vous rencontré, qui a pu vous contaminer.
En revanche, professeur, en intérieur, on est bien d'accord, on le garde ce masque.
Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que en extérieur, enfin, on décide d'un port raisonnable et raisonné du masque. En extérieur, le risque est extrêmement diminué, 10 fois moins qu'en intérieur. Et quand vous êtes tout seul à sortir votre chien le soir à 22h, qu'il n'y a personne autour de vous, porter un masque n'a pas de sens. Quand vous êtes sur une plage aérée, porter un masque n'a pas de sens non plus. Donc là, on en appelle au bon sens des Français pour dire, voilà, continuez à porter le masque en extérieur quand c'est nécessaire. Et c'est nécessaire quand vous êtes trop au contact, que votre tousse anti-Covid se met à vibrer, que vous allez dans un transport en commun. Là, oui. Sinon, pour le reste, un peu plus de liberté va faire du bien.
Professeur Amouyel, on a entendu le Premier ministre qui disait « On y est presque, mais attention, restons vigilants, le match n'est pas gagné ». Qu'est-ce qui reste à faire pour gagner vraiment ce match contre le Covid ?
Il reste deux choses. La première, c'est de continuer à se vacciner de manière importante pour atteindre cette fameuse immunité collective.
Ça y compris les ados, y compris
les plus fragiles qui... Oui, tout à fait. Vacciner les plus fragiles qui ne sont pas encore vaccinés, il y en a 20%, je vous rappelle, il faut aller les chercher, ceux-là. Et puis, étendre la population de manière à avoir la couverture la plus large. L'ensemble de la population adulte, si elle était vaccinée, c'est à peine 80% de la population française. Or, avec le variant britannique et le variant indien, le fameux variant Delta, plus contaminant, il faut aller un peu plus loin. Et pour aller un peu plus loin, il faut mobiliser d'autres classes de la population, et en particulier les adolescents.
Merci beaucoup, professeur Amouyel. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique au CHU de Lille.
Et autre assouplissement, les vieilles charrues. Vous savez, le festival des vieilles charrues annonce ce soir que l'événement se tiendra finalement bien debout et non assis. Ça, c'est encore une bonne nouvelle ce soir pour tous les festivaliers.
18h08, c'est RTL Soir et dans l'actualité, il y a ce rebondissement dans l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard.
Cette infirmière qui s'est volatilisée en pleine nuit, laissant deux enfants en bas âge, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, et bien son mari a été interpellé aujourd'hui et il est ce soir en garde à vue, Patrick Tégéraud.
Oui, peu avant 8h ce matin, Cédric Jubilard a quitté sa maison inachevée pour aller travailler tranquillement. Et 3 heures plus tard, les gendarmes l'ont arrêté et placé en garde à vue. Dans la foulée, son beau-père, le compagnon de sa mère, dont il est très proche, a été placé en garde à vue également, ainsi que la mère de Cédric. Elle a quitté la gendarmerie d'Albi après une courte audition emmenée par les enquêteurs, vraisemblablement pour une perquisition. A noter que le domicile de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard a été perquisitionné en début d'après-midi. La compagne et la petite sœur de Cédric Jubilard sont en cours d'audition à la gendarmerie d'Albi. Cédric, lui, en a été extrait. On ne sait pas précisément dans quelle gendarmerie tarnaise se poursuit sa garde à vue. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il s'agit d'une véritable opération d'envergure, une sorte d'opération coup de poing. Les enquêteurs auraient noté des incohérences dans les déclarations de Cédric Jubilard à propos de son emploi du temps.
Patrick Tégéraud dans le Tarn pour RTL. À Bastia, à présent, le verdict au procès de l'assassinat de Delphine Douy. Bonsoir Anne Lehenaf, c'est vous qui couvrez ce procès pour RTL. Son ancien compagnon a été condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, c'est une peine lourde, inhabituelle, a tout de suite dit la présidente, alors que dans la salle, le public se retient d'applaudir et que les parents et le frère de Julie, eux, se mettent à pleurer. La cour a considéré que votre geste était prémédité, préparé, poursuit la présidente. Depuis, vous n'avez exprimé aucun regret, vous avez même menacé des proches de la victime. Il n'y a eu aucune remise en question, vous n'avez demandé pardon qu'à vos enfants. La cour a donc considéré qu'aucune autre peine que cette perpétuité assortie d'une sûreté de 22 ans ne pouvait être prononcée. L'accusé a également été déchu de son autorité parentale. Dans son box, comme depuis le début du procès, Bruno Garcia ne laisse passer aucune émotion. Son avocat avait pourtant tenté d'atténuer les choses un peu plus tôt en expliquant que la perpétuité c'était une sorte de peine de mort, une peine de haine et de vengeance. Son client a 10 jours pour faire appel.
Anne Le Hénaff en direct du palais de justice de Bastia pour RTL.
On marque une pause et dans un instant on va aller rejoindre Thomas Pesquet, enfin d'une certaine manière parce qu'il est de sortie, Thomas Pesquet, de sortie dans l'espace cet après-midi. À tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h12, la suite du journal Amandine Bégaud. Et au lendemain de leur victoire 1-0 hier face à l'Allemagne, on va le redire parce que ça fait plaisir,
ben oui.
Au lendemain de leur victoire 1-0 face à l'Allemagne, les Bleus, l'équipe de France de foot, va partir pour la Hongrie ce soir.
Oui, avant cela, petite séance d'entraînement cet après-midi, une séance à laquelle vous avez pu assister, Nicolas Georgereau.
Oui, sous le soleil et sur la très belle pelouse du centre d'entraînement du Bayern Munich. Certains d'ailleurs n'étaient pas dépaysés comme Coman, Tolisso, Pavard et Hernandez qui utilisent ces infrastructures au quotidien dans leur club. Séance légère pour les titulaires d'hier, Pogba, Griezmann, Kanté par exemple, qui trottinaient tranquillement avant de faire beaucoup d'étirements, pendant que Loris, Mbappé, Benzema ont fait tout d'abord du vélo en salle. Ils sont passés entre les mains des kinés ensuite pour estomper la fatigue au maximum, accentuer la récupération après ce match d'une grande intensité. Une opposition entre les remplaçants à 7 contre 7 a occupé la majeure partie de l'entraînement. Dembélé, Lemar se sont mis en évidence, le tout sous les yeux d'un Didier Deschamps très attentif. Les Bleus vont quitter maintenant Munich d'ici une heure et arriveront vers 20h15 à Budapest. Installation et dîner dans leur hôtel au cœur de la capitale hongroise.
Nicolas Georgereau à Munich pour RTL. Hongrie-France, on le rappelle, ce sera samedi donc à 15h. Cet après-midi, la Russie a battu la Finlande 1-0 et se relance ainsi dans la course au 8e de finale de 7 euros.
Et en ce moment même, la Turquie joue contre le Pays de Galles. Ça fait à peu près un quart d'heure que ça joue et il y a toujours 0-0. Ce soir, il y aura Italie-Suisse et puis tout ça est à suivre dans RTL Foot spécial Euro à partir de 20h45.
Le match des Bleus hier marqué, on vous en a parlé par cet incident, un ULM de Greenpeace qui a survolé le terrain. Eh bien, on apprend ce soir que cet engin a bien failli être abattu par les tireurs d'élite, Léo Boer-Potier.
Un acte inconsidéré et irresponsable. Selon le ministre bavarois de l'Intérieur, si les tireurs d'élite n'ont pas abattu le pilote, c'est parce qu'ils ont vu la mention Greenpeace sur la toile de parachute. Un acte illégal de la part de l'ONG, d'autant plus, selon le ministre, que l'espace aérien au-dessus et aux alentours du stade était bouclé à 5 km à la ronde en cette soirée de match. Parmi les deux personnes blessées, on compte un Français, 36 ans, un prestataire de la chaîne M6, présent sur le bord du terrain, qui a pu rentrer en France. La deuxième victime est de nationalité ukrainienne et reste encore ce soir à l'hôpital pour des blessures à la tête et au cou. Quant au pilote de 38 ans, il fait l'objet d'une enquête et reste à la disposition de la police.
Léo Braur-Potier au micro, donc RTL, en Allemagne.
On va très haut dans le ciel. Oui, je me moque.
Bah oui, ça vous arrive aussi de...
d'accrocher un nom, ça arrive tous les jours. Amandine Bréjot. Nouvelle sortie dans l'espace pour Thomas Pesquet.
Oui, la troisième de sa carrière. La toute première de cette mission qu'il dirige, on le rappelle. Mmh. Ça a commencé en début d'après-midi et il y est toujours au moment où on se parle, Virginie Garin.
Oui, on l'entend là discuter avec son collègue américain Shane Kimbrough. Ça fait 4 heures maintenant qu'ils sont tous les deux dans le vide spatial. Thomas Pesquet est sorti en premier. Il a ouvert une porte ronde. On a d'abord vu ses pieds. Il s'est extrait tout doucement dans son scaphandre blanc qui pèse quand même 170 kilos. Alors ils doivent tous deux déployer un panneau solaire. Plusieurs caméras filment la mission. On voit au fond le bleu de la Terre. Les conditions sont extrêmes. Ils passent toutes les 90 minutes du noir total à une lumière éblouissante, de moins 120 degrés à plus 150. Ils progressent attachés à un câble en s'accrochant à des rampes. Ils sont aidés par une ingénieure depuis la Terre. Thomas Pesquet a utilisé une visseuse spatiale pour fixer le panneau. C'est un travail épuisant et qui doit durer encore 2 heures. Une autre sortie est prévue dimanche pour déployer un second panneau et augmenter la puissance électrique de la station construite il y a maintenant 23 ans.
Récit signé Virginie Garin.
Merci beaucoup à vous, Amandine, et à tout à l'heure. Et si on ralentissait un peu, si on prenait le temps, si on arrêtait de courir, et si on prenait le train, la première start-up ferroviaire va se lancer avec l'ambition de nous faire voyager de nuit. Son fondateur s'appelle Adrien Aumont et il est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir, Thomas.